J'ai gribouillé 10 phrases et Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit, vous vous foutez du monde. 5 minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée. Mais il y a des règles administratives, moi, ça dépend pas de moi de lancer un appel.
Cet appel est l'un des discours en français les plus célèbres du XXe siècle. Bonjour et bienvenue dans cette 8e visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. À l'occasion de la sortie d'un film retraçant sa vie, cette semaine, focus sur celui qui fut pendant très longtemps la personnalité préférée des Français, l'abbé Pierre. La France de la naissance des compagnons d'Emmaüs au début des années 50 n'est pas sortie de l'après-guerre, on manque de logements, même insalubres, il y a beaucoup de misère et de sans-logis. C'est l'histoire d'un duel de la charité face à l'administration, de la solidarité face au col blanc.
Vous l'avez entendu ?
Dans ma voiture.
Mais ma parole, il se prend pour De Gaulle.
J'ai vos renseignements, monsieur le ministre.
Eh bien, entrez ! Qu'est-ce que c'est que ce type ? Un illuminé ? Un anarchiste ? C'est quoi ?
Un prêtre.
Je sais. Quoi d'autre ?
Grouès-Henri, dit l'abbé Pierre. Ancien aumônier des Maquis du Vercors, ancien député de l'Assemblée nationale, ancien secrétaire de la Commission de la Défense nationale, ancien président du comité exécutif du mouvement universel pour une confédération mondiale, ancien vice...
Bon, ça va, les anciens. Et maintenant ?
Directeur de la communauté d'Emmaüs.
J'ai compris, c'est un excentrique. Dans un sens, j'aime mieux ça. Un type qui a fait tout ça pour finir à la tête d'une bande de ferrailleurs est forcément un cinglé.
Intouchable.
Ce dialogue entre le préfet de Paris et le ministre est extrait, comme tous les autres à venir, du film de Denis Amar, Hiver 54, sorti en 90. Les ministres valsants durant la 4e République, l'abbé Pierre en a connu bien d'autres. Premier des nombreux extraits issus de l'excellent entretien dans Propos et Confidences sur Radio-Canada en 80.
Je me rappelle un jour, le ministre m'interpellait, c'était un camarade de guerre, et nous pouvions nous parler très librement. Comme il me reprochait tout ce qui avait d'illégal dans ce que nous faisions, je lui disais, mais puisque tu n'es pas capable de donner à ces travailleurs pauvres le moyen d'être dans la légalité, laisse-moi les faire rentrer illégalement dans ta légalité. Parce que je sais bien qu'une fois que j'aurai terminé telle cité où il y avait 18 logements en construction, quand les familles seront là, la viabilité qui manque et qui fait que nous avons été dans l'illégalité en bâtissant là, tu seras obligé de leur amener cette viabilité, de faire l'égout, l'eau, l'électricité, ce qui d'ailleurs est arrivé par la suite. Et c'est un des événements les plus importants de ma vie, certainement. Un soir, dans le secret, sans rien dire à personne, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour tout de suite, j'ai mendié. Je donnais aux gens un petit papier qui expliquait comment des pauvres travailler gratuitement pour venir au secours des familles que la société aveugle, injuste, était incapable d'aider à se loger. Et quand j'ai eu de quoi manger pour 2 ou 3 jours, je suis rentré. Le lendemain matin, au courrier, je trouve une lettre. Et il y avait le tract que je donnais aux passants. À ce tract était épinglé un petit billet de banque. Et puis était écrit sur le tract, hier au soir sur le boulevard Saint-Germain, j'ai rencontré un prêtre et cette rencontre m'a fait faire un retour vers Dieu de ma jeunesse. Longtemps, j'ai gardé épinglé au-dessus de mon lit ce petit papier en disant « ça sera mon billet d'entrée à tarif réduit au paradis ».
J'étais un gosse de riche.
La famille habitait la Croix-Rousse, à Lyon. Son père était administrateur de société, direction les années 20.
Élève chez les jésuites, il brille davantage par son charisme que par ses résultats scolaires.
J'ai pas été un bon élève. J'ai eu même un jour à faire signer à papa un carnet de notes sur lequel il y avait écrit « Ce sont les plus mauvaises notes de tout le collège. Si Henri n'avait pas ses frères, il serait renvoyé. »
Sa vocation, il la tient de son père, qui le dimanche s'engage auprès des plus pauvres. Le jeune adolescent découvre alors la charité.
Que voilà, peut-être 30, 40, je ne sais plus, gueux. Clochard, mendiant, déguigné, sale. Et je vois 5-6 messieurs, des amis de papa, hommes d'affaires, je m'appelle un général en retraite, et qui étaient les dimanches matins les barbiers, les coiffeurs des plus miséreux.
En 49-50, quand les compagnons de l'abbé Pierre apprennent qu'il s'est mis à mendier en cachette,
c'est alors qu'un des camarades m'a dit « Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il n'y a plus d'argent ?» Moi, dit-il, je sais en trouver. Je ris et je lui dis oui, je sais que tu as été bien des fois en prison, que tu es très habile pour voler. Il me dit oui, je sais voler, mais je connais aussi un autre moyen. Et il m'explique comment, quand il sortait d'hôpital ou de prison, il vivait en faisant le chiffonnier, en allant récupérer tout ce que notre société de gaspillage jette, en allant fouiller dans les ordures. Et moi, j'étais sceptique. Je lui dis oui, ça pouvait te permettre de t'acheter un morceau de pain, un litre de vin, mais c'est pas vrai que ça peut permettre à 18 compagnons de vivre et de bâtir. Et lui insiste, il me dit si vous travaillez avec nous, si on travaille méthodiquement, si vous nous empêchez de boire tout ce qu'on gagne, si on explique au public pourquoi on va récupérer tout ce qui est perdu, vous verrez qu'on aura assez pour vivre et encore du surplus qui nous permettra de continuer à venir au secours des familles désespérées sans logis. Et on a commencé.
28 mai 90, spécial cinéma avec Christian Defaille sur la RTS.
J'ai jamais eu beaucoup d'illusions.
Vous n'avez pas eu beaucoup d'illusions?
Non.
Vous me surprenez.
C'est ce que j'appelle la désillusion enthousiaste. C'est le commentaire de la page de l'Évangile des disciples d'Emmaüs. Ils avaient cru dans l'illusion. Ils voyaient notre Seigneur le dimanche des rameaux. C'était la descente des Champs-Élysées, le jour de la libération. Et puis, ils voient tout effondrer. C'est la désillusion. Mais qui est le préliminaire nécessaire pour que soit possible l'enthousiasme? L'enthousiasme qui est entheos, l'âme qui devient un avec l'éternel. Mais ce n'est qu'au-delà de l'illusion et de la désillusion. J'étais plus souvent déçu de moi que des autres. Et après un mois et demi environ, on a pu racheter une vieille camionnette. Je leur dis souvent à nos compagnons d'aujourd'hui, faites pas trop les fiers, n'oubliez jamais le commencement. S'il n'y avait pas eu des camarades courageux, si le bon Dieu n'avait pas fait que la première maison d'Emmaüs se soit trouvée en haut d'une rue en pente, ben vous n'existeriez pas, vous, aujourd'hui. Parce que on avait un si vieux taco, si vieux camion, que tous les matins, dans l'hiver, le froid, le seul moyen qui démarre pour qu'on ait de quoi manger, de quoi vivre, c'était de le jeter dans la descente. Si la rue n'avait pas été en pente, on n'aurait rien pu faire et on n'existerait pas aujourd'hui.
Fais gaffe ! Oh ! Et merde !
Oh ben y a des jours comme ça !
La moitié d'entre nous faisions le travail de chiffonnier. J'ai appris le métier. Et l'autre moitié, avec le bénéfice, continuer à construire pour les familles sans logis.
Lance-moi la tôle.
On va pas mettre le doigt en premier ?
Si !
Enfin, c'est pas très logique.
Si, justement. Parce que tant que la baraque n'a pas de toit, les poulets peuvent arrêter le chantier. Alors que dès que le toit est posé, c'est un logement. Et là, il faut une décision du tribunal pour s'en faire dégager.
Enfin, ça revient au même.
Oui, mais plus tard. La justice, ça prend du temps.
Comment ça, c'est illégal?
Monsieur l'abbé, il n'y a ni l'eau, ni l'électricité. Et la route, regardez-moi ça.
Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma route?
À peine ébauchée.
Mais puisque je vous dis qu'on est que des campeurs.
Il faut regarder les choses en face. Construisez sans permis.
Vous allez avoir tous les services de la préfecture sur le dos.
Lui, c'est l'hygiène, moi, la viabilité, et c'est qu'un début.
Sans permis de construire, c'est illégal. Et eux, là ? Qu'est-ce qu'on en fait, hein ? Eux, ils crèvent ! Légalement, mais ils crèvent !
Si vous ne dégagez pas d'ici, vous aurez procès sur procès.
Ah, mais qu'ils y viennent. Ah oui, pour l'amour de Dieu, qu'ils m'en fassent un procès. Je mettrai ma légion d'honneur là, et mon écharpe de député comme ça, et mon étole de curé par-dessus tout. Et j'irai devant leur tribunal. Et je leur dirai, quand la loi est ainsi faite que les travailleurs, avec leur salaire, ne peuvent pas se loger, alors c'est la loi qui est illégale.
Il est fou.
Et alors, il en faut. J'aime bien quand il est comme ça.
Je me souviens d'une famille, un soir, je passais à la tombée de la nuit et je me souvenais que c'était des gens qu'on avait pris dans une cave horriblement malheureux et on les voit tous joyeux dans leur maison éclairée. Et je m'aperçois que le papa avait accroché une petite pancarte à la porte de sa maison, il avait peint un bouquet de fleurs et il avait écrit le nom de sa villa, la joie de vivre.
Nous y voilà. Janvier 54, c'est l'hiver et l'un des plus rudes qui soit en France.
Le froid est descendu dans l'est de la France jusqu'à des moins 30. Dans Paris, il y a eu moins 15, moins 18 degrés. J'ai alors demandé à un ami sénateur de déposer un amendement, puisqu'on était en plein débat du budget national, un amendement au budget de la construction pour que 1 milliard de francs de l'époque immédiatement soit affecté à la construction de ce que j'appelais des logements d'urgence. On trouverait des crédits si un tremblement de terre frappait l'opinion et s'il y avait quelques dizaines de milliers de familles sans logis. Le débat est venu dans la nuit.
Plus exactement vers 2h du matin. Que pensez-vous qu'il advint ? L'Assemblée ajourna le débat, préférant le noyer dans les impératifs des commissions. La procédure. L'abbé l'apprend pile quand ?
On tape à la porte. Je crie entrer. Et je vois entrer un papa. Un de ceux pour lesquels nous étions en train de bâtir leur maison. Mais parce qu'il était impatient d'être vite sorti de son taudis, il avait supplié qu'on le loge, lui, sa femme et son bébé, dans un vieux camion, sur le terrain même où il bâtissait avec nous sa maison, pour que dès qu'il sortait de l'usine, tout de suite, sans perdre une minute, il puisse accélérer sa construction. Il dormait donc là dans ce camion, avec un poêle. Et je vois cet homme qui sanglote et qui me dit « Père, cette nuit, le poêle s'est éteint et ce matin, le bébé était mort de froid. » Au moment même où on me disait, les députés, le ministre ont dit « plus tard » pour le logement des désespérés, il y en a pour lesquels c'était trop tard. Toute la journée, j'ai été au secours de cette famille, en même temps que nous continuions nos chantiers. La nuit d'après, je ne pouvais plus dormir. Alors, vers 3h du matin, je me suis levé et au pied d'une statue de la Vierge, Notre-Dame des Pauvres, j'ai écrit une lettre publique au ministre. Et j'ai été réveillé, Mademoiselle Coutage, ma vieille secrétaire, qui a maintenant 80 ans, qui depuis 35 ans travaille avec nous. Je lui ai dit, tapez vite beaucoup de copies de cette lettre. Et je suis parti dans la nuit, la glisser sous la porte du ministre, puis je l'ai donnée à la rédaction de tous les grands journaux de Paris.
Dans le film Hiver 54, l'abbé Lambert Wilson est in extremis reçu par le directeur du Figaro, joué par l'immense Laurent Terzieff.
Que puis-je faire pour vous ?
Publiez ça.
Qu'est-ce que c'est ?
Une lettre.
Vous n'aviez plus de timbre ?
Exactement.
À monsieur Letellier, ministre du Logement. Fichtre.
Tant qu'à faire.
Si vous ne savez pas de grâce, taisez-vous, ne parlez plus jamais de logement. Vous voulez vraiment publier ça ?
J'y ai pensé toute la journée. Il faut leur dire. Les hommes puissants sont aveugles, Paul. Vous le savez aussi bien que moi. Le pouvoir est aveugle et la misère, elle, est muette. Et nous, nous sommes entre les deux. Et si nous nous taisons, nous devenons complices.
C'est vrai, mais interpeller Letellier comme ça...
Pourquoi pas ?
Soyons lucides, ça ne peut pas se faire sans conséquence. Si vous vous lancez là-dedans, vous les obligerez à une surenchère.
Eh bien, une surenchère de rien du tout, ce sera peut-être enfin un petit quelque chose.
Mon père, si je vous dis ça, c'est que c'est vraiment...
Quoi ?
Risqué.
Pour moi ? Pour moi, le prêtre de l'Évangile qui n'ait plus rien à perdre, mais qu'est-ce que je risque ?
Oui, évidemment. Ancien maquisard, proche des De Gaulle, je reconnais que vous êtes intouchable.
Profitons-en.
On ne parle pas comme ça à un ministre.
Moi, si.
Oui, vous peut-être. Vous êtes même sans doute le seul à pouvoir faire ça.
Écoutez... La nuit où vous avez quitté le Sénat sans voter, un bébé est mort de froid. On l'enterre demain à 14h et ce serait bien si vous veniez.
Oh là, vous rêvez.
Mais c'est toujours pareil. Ils ne voient les drames humains qu'à travers leurs statistiques. C'est pas devant les chiffres qu'on pleure, c'est derrière les cercueils.
Et puis...
Il n'ira pas.
Mais vous, Paul, qu'est-ce que vous en dites ?
Qu'il n'est pas dans les usages de Figaro de publier des paroles aussi rigoureuses pour les autorités en place. Voilà ce que je dis.
Je comprends. Si tu veux paraître bien naïf.
Non. Très naïf. Ou très malin. C'est de le passer moi le marbre. Texte intégral. Dès que je vous ai vu devant ma porte, j'ai su qu'il allait m'arriver une tuile. Mais là, je dois dire, vous me gâtez. Salut, mon vieux. Changement de programme. Eh oui. Il me faut 4 colonnes à la une.
Au final, Après une matinée glaciale, un fonctionnaire l'informe officieusement de la présence du ministre à l'enterrement du gamin.
Je suis vite parti. Nos deux voitures se sont fermées la route. Il arrivait par un bout d'une impasse, moi par l'autre bout. Je suis descendu, je lui ai ouvert sa portière, je me suis mis à pleurer. Et je lui ai dit c'est là. Et on a vu ce ministre, que j'aime beaucoup car c'est un homme loyal, honnête. On l'a vu pendant 2 kilomètres, tête nue, marcher, au milieu d'une trentaine de pauvres chiffonniers. Et lorsque l'enterrement se terminait, le ministre a voulu dire quelques paroles. Je savais qu'il y a de la misère, mais jamais la souffrance des autres n'avait été la mienne comme aujourd'hui. Merci de m'avoir fait venir. Et il commence à dire, on va étudier la demande de l'abbé Pierre. Un de mes camarades chiffonniers l'a interrompu. Il lui a dit, monsieur le ministre, nous, on ne croit pas les paroles, on ne croit que les actes. Vous êtes venu, ça c'est un acte. Mais maintenant, au lieu de nous faire un discours, allez tout de suite dans votre ministère et faites ce que vous alliez nous promettre. Et nous, on va continuer, en attendant la loi, on va continuer à venir au secours des plus désespérés.
Oh, dis donc, s'en est.
Ah, je le crois pas.
Eh, hey, il n'y en a pas de comme lui pour les repérer.
Il n'y a pas les lampions dans la poche. Bon, allez, cordonnier, faites passer. Allez, allez.
Merci. Je sais bien que c'est pas grand-chose, mais on a pensé qu'un peu de soupe chaude.
C'est pas de refus, monsieur le curé.
Tu veux de la soupe? Tu veux pas de soupe, t'as froid?
Eh, hey. Tiens, quand on dit qu'une hirondelle fait pas le printemps...
Qu'est-ce qui se passe ici?
Monsieur l'agent, il faut faire quelque chose pour ces gens.
Faire quoi?
Mais je ne sais pas, les emmener au poste ou bien dans un asile de nuit?
C'est plein partout, monsieur le curé, et dans les hôpitaux aussi.
Mais c'est impossible, il doit bien exister un endroit.
À la morgue, quand ils seront morts, c'est tout ce qu'on peut faire. Bonsoir, monsieur le curé.
C'est honteux! Pour des chiens, vous avez des fourrières! Vous n'êtes même pas capable de faire autant pour des hommes!
On n'a qu'à les emmener.
La guerre de l'Est?
Ils sont toujours nés ici.
90.
Je ne me connais pas de colère extériorisée beaucoup. Pas quelqu'un ayant des explosions de colère violentes. C'est des colères pas froides, mais de même, par exemple, que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que je ne me souviens pas d'avoir jamais éclaté de rire. Alors je connais des amis pour qui ça fait partie de être, et je n'en ai pas le souvenir de jamais éclaté de rire. Mais c'est pareil pour la colère.
La nuit, quand nous revenions avec nos camions pleins, on vidait les camions. Et puis, on mettait dedans de la soupe chaude, des couvertures, des vêtements, et on repartait dans les rues de Paris pour aller ramasser les gens. On avait planté des tentes dans plusieurs régions. La ville de Paris, au grand scandale des gens distingués, qui trouvaient que c'était pas convenable.
La mort de la femme qu'on a ramassée Boulevard Sébastopol, à quelques centaines de mètres du théâtre du Châtelet, où à ce moment-là, on jouait les ballets du marquis de Cuevas, avec un luxe délirant. Et tout le Paris le plus luxueux sortait du théâtre au moment où nos compagnons ramassaient cette femme moribonde. Alors, tous ces faits ont fait monter l'émotion en disant, Pierre, il y en a marre, on ne peut pas continuer, travailler toute la journée, encore travailler la nuit, l'État, l'opinion, tout le monde s'en fout, et il faut faire autre chose.
C'est là que naît l'idée d'un discours à la radio. Depuis 1954, il n'y en a que deux, la radio d'État et Radio Luxembourg. Europe 1 arrivera l'année d'après. Au speaker de la première, il finit par dicter son texte, mais c'était mal parti.
Et alors, c'est Georges Duprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil et il lui a dit, écoutez, monsieur, demain matin, ça dépend de vous. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris. Parce que nous vous avons demandé ça, et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire « c'est ma faute ». Et le type est resté, quelques secondes, et puis avec beaucoup de courage. Bon, il a dit « écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte ». Et je l'ai dicté par le téléphone, et il l'a lui-même lu à la radio. Et immédiatement après, je bondis dans la voiture, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er au studio de Radio Luxembourg.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir de froid sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait dans ses mains le papier par lequel on l'avait expulsée de son logement. Chaque nuit dans Paris, ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit, sans toit, sans pain, mal vêtus et malades. Il faut que dès ce soir, dans tous les quartiers de Paris, s'ouvrent des centres de dépannage.
Tu vois bien que c'est l'abbé Pierre.
Qu'on accroche des pancartes, sous une lumière, dans la nuit, à la porte de tous les endroits où il y a des couvertures et de la soupe et de la paille. Et que partout, ces centres de dépannage, ces centres fraternels, accueillent tous ceux qui souffrent, quels qu'ils soient. Qu'ils puissent s'y abriter, y dormir, y manger, reprendre espoir. Qu'ils sachent qu'on les aime et qu'on ne les laissera pas mourir. La météo annonce des semaines de froid terrible. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous en supplie, faites cesser les expulsions, au moins pendant qu'il gèle. Et vous, monsieur le préfet de police, faites rouvrir les stations de métro. Elles feront d'excellents abris d'urgence pour les nuits qui viennent. Et vous, vous tous qui m'écoutez, je vous en prie, aidez-nous à aider les sans-abri. Nous avons besoin pour ce soir de 5000 couvertures, de 300 grandes tentes américaines et de 200 poêles catalytiques. Et nous avons aussi besoin de vos vêtements chauds que vous ne mettez plus.
Radio Luxembourg, bonjour. Non, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Appelez à la fin du journal. Ginette, vite.
Mais je vous en supplie, ne réfléchissez pas. Écoutez votre cœur et venez nous rejoindre afin que, grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne meure cette nuit dans la rue. Vous pourrez apporter vos dons à l'hôtel Royal Haussmann, 92 rue de la Boétie, Paris 8e. Et vous aurez ainsi, au plus fort de l'hiver, rendu son âme à la France. Merci d'avance.
Sur le plateau de tournage autour de Lambert Wilson ce jour-là, il y a bien sûr l'équipe du film, mais il y a aussi l'abbé Pierre.
Qui souffre.
Ce jour-là, j'ai été totalement tétanisé. Il avait cette générosité indulgente de comprendre ma gêne et de se dire « c'est important que les gens réentendent à nouveau ce message ». Car pour lui, les chiffres n'avaient pas changé, la situation était la même.
Et 70 ans plus tard,
Ah, cher ami, à chacun sa croix. Et n'oubliez pas, cet homme est dangereux.
Vous aussi, vous l'avez trouvé émouvant.
Très.
Le temps de venir de la radio où j'avais lancé cet appel jusqu'à l'hôtel où j'avais dit apporter une foule. On a dit plus de 10 000 personnes en quelques minutes étaient dans les rues. La circulation n'était plus possible. Et à partir de ce moment, à cette adresse que j'avais indiquée dans Paris, dans un hôtel de luxe dont la propriétaire m'avait mis un étage entier à la disposition pour mettre à l'abri des personnes en péril, nous sont arrivées plus de 300 000 lettres. En quelques jours, en quelques semaines. C'était merveilleux et pour nous, c'était terrible. Comment allions-nous être capables d'organiser tout cela?
Il a obtenu le vote d'une loi, l'abbé Pierre. Il a obtenu l'interdiction des expulsions pendant la période hivernale.
Mais surtout, le résultat le plus merveilleux a été de provoquer la mobilisation des pouvoirs publics. Devant cette émeute, ce soulèvement de l'opinion publique, le Parlement s'est réuni en séance extraordinaire. Et en quelques minutes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, a voté à l'unanimité 10 fois plus que le crédit qu'un mois plus tôt on avait renvoyé à plus tard. Il y a eu un crédit de 10 milliards de francs de l'époque pour la construction de logements d'urgence. 12 000 logements immédiatement ont été réalisés. Mais surtout, nous avons provoqué le démarrage d'une nouvelle politique du logement populaire en France. C'est de cette année 1954 que les crédits de logement populaire ont été doublés.
Il pouvait compter sur la fidèle Lucie Coutaz et sur son indéfectible bras droit, incarné par le génial Robert Hirsch dans Hiver 54.
Je ne peux pas donner ma foi aux responsables d'un univers dans lequel meurent les enfants. Monsieur Albert Camus.
Nous voici rendus au terme de cette 8e visite de la saison 7 du Panthéon décousu sur Radio Alpa. La prochaine fois, les années 90 et 2000 de l'abbé Pierre, et notamment une polémique, des coups de gueule et enfin la loi pour le droit au logement. Retrouvez toutes les visites en podcast sur le site radioalpa.com et toutes les principales plateformes de réécoute. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans le groupe Le Bruit du Frigo qui, en 2021, chantait justement Hiver 54, un beau texte façon chanson réaliste des années 50, justement dans un beau costume à faire valser l'accordéon et mouiller les joues. Ou l'inverse. Bonne semaine à toutes et tous et d'ici là, le dérèglement climatique ne nous tient pas à l'abri d'un climat glacial.
tendu comme une arbalète, serré dans un par-dessus. L'angoisse déforme mon squelette, le bonheur est bien ambigu. Seul comme un chien sur une aire d'autoroute, j'attends vain, étouffé par le doute. La fin du monde pourrait surgir dans l'heure. Quand je la vois, je crains pas le malheur. Esselé sur ma planète, mes rêves tombent comme des obus. Un vent du nord me traverse la tête et mes espoirs sont rompus. Je ne suis rien au pied de sa splendeur et nos destins n'ont pas le même ascenseur. Je l'imagine épanouie et heureuse. Moi, la misère a rendu mes joues creuses. Vous n'étiez pas de celles qu'on indispose. Au long regard paraissait une hypnose. J'aurais aimé pourtant rien qu'une fois vous soudoyer un sourire maladroit. Quand vos silences étaient des échymoses, l'indifférence nourrissait ma cirrhose. Comment charmer le regard d'une reine qui par son ombre vous met en quarantaine.
Ces communautés d'Emmaüs, elles sont une toute petite mais grande chose, parce qu'elles apportent au monde ce que le monde a besoin de voir possible. Vivre pour aimer, vivre pour que soient servis premiers les plus souffrants.
Les semelles collées au bitume, je tiens la rame à deux mains. La radio annonce que l'hiver sera rude et que le pays crève la faim. Observateur derrière mon bras zéro, dans un quart d'heure elle quittera le boulot. D'un pas pressé elle passera sans me voir et sa beauté balayera mon trottoir. Janvier 54, mes doigts ne répondent plus. Le froid eut raison de maniaque, je vais calancher dans la rue. Est-ce le destin ou un délire funèbre que ce parfum qui caresse mes lèvres? Vous l'inconnu qui passiez sans me voir, me regardez le jour de mon départ. Vous n'étiez pas de celles qu'on indispose. Vos longs regards paraissaient une hypnose. J'aurais aimé pourtant rien qu'une fois vous soudoyer un sourire maladroit. Quand vos silences étaient des échymoses, l'indifférence nourrissait ma cirrhose. Comment charmer le regard d'une reine qui par son nom vous met en quarantaine. Hey !
Vous les jeunes, dites-vous bien que dans le monde nouveau qui en pleine crise est en train de se créer, selon que vous vivrez pour aimer ou pour prendre pour vous, vous allez être les plus malheureux ou les plus heureux qui aient jamais existé.
Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.